Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% Foot, votre émission consacrée à l'Olympique de Marseille et au football régional avec le FC Martigues et Aubagne. Voilà, on se retrouve comme chaque semaine, le lundi après-midi, en compagnie de Franck et Patrick. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Thierry.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, on va revenir sur le week-end foot dans la région et avec nos équipes de Ligue 2, de National et de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Voilà, un programme riche et copieux avec ces trois formations. Voilà, on va démarrer tout d'abord avec la Ligue 2 et les 100 et or du FC Martigues qui se déplaçaient en Aveyron, sur le terrain de Rodez, et malheureusement pour les joueurs d'Aki Malet, ça a été une nouvelle défaite, une nouvelle désillusion avec un revers par le plus petit des écarts, 1-0. Et au-delà de ça, une expulsion aussi à 10 minutes de la fin avec Samir Belhoumou qui a été expulsé à la 79e.
Très dommageable.
Voilà. Un petit mot sur cette équipe de Martigues qui, malgré cette défaite, conserve un point d'avance sur Clermont au classement et toujours occupe la 16e place de ce championnat de Ligue 2 avec 28 points.
Ils sont toujours barragistes, même si ça ne garantit pas, parce que le 3e de National, ce n'est pas des équipes faciles. Ouais. Mais ils sont toujours barragistes. Et là, c'était un match important parce que Rodez était devant. Du coup, ils étaient deux points devant. Du coup, maintenant,
Rodez peut éventuellement se sauver d'une relégation immédiate.
Oui. Voilà. Et donc, il va falloir s'accrocher pour à la 16e place pour ne pas laisser Clermont, qui est à un point, revenir.
Bon, ben, c'est vrai qu'au niveau des points, nous pouvons noter que donc on parle de Martigues qui est 16e de cette Ligue 2 avec 28 points. Clermont est à 27 points, 17e. Donc évidemment que le but c'est que Martigues conserve une position de barragiste. Alors Amiens est 15e avec 34 points, donc il ne faudrait surtout pas que Clermont nous passe devant. Alors bon, ben, on peut dire également pour la semaine prochaine.
Voilà. Le prochain rendez-vous, je crois que c'est la réception de Metz.
Ouais,
voilà,
à Turquin, à domicile.
Vendredi soir.
Alors il est vrai que bon, ben, il faut absolument, Metz est une très belle équipe de cette division, de cette ligue, et alors il faudra évidemment mettre les bouchées doubles. L'emporter serait évidemment l'idéal.
Parce que Metz, ils sont à la lutte avec Paris FC et Lorient pour les trois. Même si,
cette équipe de Metz, ce week-end, elle a été accrochée à Saint-Symphorien par Caen. Cette équipe de Stéphane Mignan qui est en haut tableau de Ligue 2.
Voilà, donc ils sont à la bataille pour la montée barragiste, c'est pas la montée, quoi. Donc ils auront intérêt à prendre les points et c'est une équipe solide avec quelques bons joueurs. Et donc il faut que Martigues s'accroche. Parce que le problème de Martigues, il faut le dire, hein, c'est quand tu as un petit budget, ben, tu as un manque de talent, de joueurs qui font...
C'est cruellement évident, hein, un manque de talent dans l'effectif actuel et une prise de conscience peut-être collective, Hakim Malek en est témoin, ils veulent s'en sortir, mais ont-ils les moyens suffisants et nécessaires pour se faire? Mais nous y croyons.
Oui, voilà. C'est... En plus, on rappelle ce qu'on dit déjà depuis plusieurs semaines, c'est qu'il y a un ou deux clubs qui ont des problèmes de budget, Ajaccio en particulier.
Ça, il faudra scruter la situation financière de certains clubs en fin de saison.
S'il y a un club relégué, c'est le 17e qui devient barragiste et le 16e,
Ajaccio, évidemment, s'en sort toujours pas mal. Ils ont battu Amiens 2-1 sur cette journée.
L'équipe s'accroche, mais si tirer trop gradé.
Et malheureusement, ils tendent vers cela.
Il faudra voir. En tout cas, il faut que Martigues s'accroche. Parce que tant qu'il y a un espoir, il faut le jouer. Quoi.
Allez, on y croit.
Voilà.
Et on lâche rien.
Voilà, on va refermer cette parenthèse de Ligue 2 avec donc prochain épisode. Donc ça sera vendredi soir du côté de Turquin, la réception des Lorrains du FC Metz. Et dans le même temps, l'équipe derrière Clermont se déplacera sur la pelouse de Pau qui a subi une grosse défaite à Lorient ce week-end. Voilà, on va enchaîner avec le national et l'équipe d'Aubagne qui a ramené un bon point, un bon match nul de Sarthe, du Mans, un but partout.
Tu fais bien de le souligner car c'est Aubagne a ramené un point de face au Mans.
Voilà. C'est l'équipe mancelle qui occupe la troisième place de ce championnat de national.
Au préalable, oui, tout à fait. Mm-hmm.
Voilà, pour le compte de la 28e journée de national. Donc les Aubagnais occupent la 8e place avec 35 points.
Voilà, avec Dijon devant avec 37, Valenciennes. 6e, 37 points. Rouen est derrière Aubagne, donc 9e avec 34 points. Donc, il se retrouve dans une position idéale pour le maintien. Et Aubagne est là. Et nous parlons de leur prochaine journée.
Voilà, le prochain rendez-vous, le 29e journée, ça sera la réception du Paris 13 Atlético côté de Delattre à 19h30 vendredi.
Voilà, le vendredi 11, tout à fait.
Voilà, les Franciliens qui occupent la 15e place de ce championnat national.
Bon, ben, il faudra en tout cas jouer comme à l'accoutumée en ce qui concerne Aubagne.
Voilà.
J'ai vu la deuxième mi-temps du match précédent et évidemment qu'il leur manquait pas mal de joueurs, mais quelle belle équipe. On sent un fond de jeu qui est assez intéressant et quelques individualités. Je n'ai pas de doute quant à la qualité de cet effectif d'Aubagne et leur maintien.
Voilà. On va espérer qu'ils s'accrochent parce que là, il semble qu'ils aient perdu leur jeune attaquant, celui qui a signé à Nantes en Ligue 1 qui a peut-être la tête ailleurs. Quoi. Voilà,
J'en reviens à l'ensemble du collectif que je trouve très, très solidaire dans cette équipe.
Alors, c'est un joueur qui faisait des différences et qui créait des brèches. Et là, il est plus présent. Il a signé pro, donc à 19 ans, le mec, il est... Et là, il n'a pas fait jouer les deux derniers matchs, donc ça semblerait dire. Et c'est quand même un élément qui était intéressant parce qu'il c'est un joueur déstabilisateur, dribbleur et tout.
Enfin, son avenir personnel, évidemment, prend le dessus dans son imaginaire et l'imaginaire collectif.
Voilà, mais... un jeune joueur, il a du mal à assumer. Voilà, donc il est plus là, quoi.
Ouais.
Voilà.
Voilà, donc après la nationale, avant d'enchaîner avec l'OM et la Ligue 1, un petit mot sur l'équipe féminine. Je crois qu'il rejouait son match face à l'OGC Nice.
Absolument, le match qui avait...
Au campus, qui avait été interrompu il y a quelques semaines en raison des intempéries.
Je m'en souviens, j'étais là sous la pluie. Et évidemment que l'interruption s'est faite automatiquement, comme pour les supporters. Donc ce match face à Nice s'est disputé ce dimanche. Et l'OM a battu l'OGC Nice 3-1, avec évidemment des spectateurs qui n'étaient pas usités au campus habituellement. Quelle visite, monsieur Longoria.
Sous les yeux de l'actionnaire et du président de l'Olympique de Marseille.
Notre président et notre actionnaire, évidemment, Franck McCourt. Qui ont dû le porter chance à cette équipe en espérant un objectif commun avec, je dirais, Frédéric Gonçalves qui s'occupe de la D2 féminine.
Le technicien de l'Olympique de Marseille, section féminine.
Un projet évidemment qui tient à cœur autant le club que les dirigeants et les cadres de cette équipe. Une accession peut-être un peu prématurée cette année, mais une accession prochaine pour la D1 Arkema serait la bienvenue pour notre club section féminine.
Voilà, on souhaite bonne chance donc à la section OM de féminin et on espère les retrouver parmi l'élite et en D1 Arkema la saison prochaine.
Très rapidement pour clôturer là-dessus, c'est un retour sur le classement. Lens, évidemment, à 39 points est premier de cette division, de ce groupe. Toulouse est deuxième et nous sommes à 30 points, troisième, à un point de deuxième Toulouse. Et le 13, la semaine prochaine, l'OM recevra Lens qui est premier de cette division. Voilà. Donc, gros match, belle affiche en perspective au campus également.
Voilà, un rendez-vous à ne pas manquer, surtout pour les amateurs de football féminin. Donc, on suivra ça de près, cette équipe féminine de l'OM qui chaque semaine nous fait plaisir avec ses résultats positifs. Et on espère tous les retrouver en D1 féminine la saison prochaine.
De tout cœur.
Voilà. On en a terminé avec la Ligue 2, le National et la D2 féminine. Voilà, on attaque avec le gros morceau, le débrief, la Ligue 1 et l'Olympique de Marseille. Voilà, juste un petit mot. D'abord, je vais revenir rapidement sur les résultats de la 28e journée de Ligue 1. Donc, ça va démarrer vendredi soir avec la défaite de l'OGC Nice à la maison face à Nantes 2-1. Ensuite, donc, samedi, PSG a battu Angers 1-0 au Parc des Princes, match qui a couronné les joueurs de la capitale d'un 13e titre de champion de France.
C'est ce que j'avais malheureusement cru comprendre, oui, tout
voilà.
à fait.
Brest a battu l'AS Monaco 2-1. Et enfin, en soirée, Lyon s'est défait de Lille 2-1 au Groupama Stadium. Mm-hmm. Hier dimanche, donc, Lens a battu l'AS Saint-Etienne 1-0. Montpellier a perdu à la maison 2-0 face au Havre.
Ouais.
Match qui a scellé le sort des joueurs de Jean-Louis Gasset et la relégation pour la saison prochaine. Donc on retrouvera les Héroletais en Ligue 2 la saison prochaine. Strasbourg est allé gagner 1-0 sur la pelouse du Stade de l'Aune face au Stade de Reims. Voilà, deuxième match consécutif pour les Champenois à la maison. Et ça n'a pas été la même chanson que face à l'Olympique de Marseille la semaine dernière, avec une défaite pour les joueurs de Samba Diawara.
Il est vrai, ce qui ne nous aide pas non plus au niveau classement, mais enfin, nous verrons ça dans un moment.
Voilà, et donc avant-dernier match, le Rennes de Habib Bey a chuté à la maison après deux bons mois et des résultats positifs. Voilà, les joueurs du Stade Rennais sont inclinés au Roazhon Park 1-0 face à l'AG Auxerre. Ouais. Voilà, bonne opération pour les joueurs de Christophe Pélissier qui sont en route pour un maintien.
Ah oui, qui est pratiquement assuré.
Qui est assuré.
Qui est acquis depuis.
On peut dire
déjà
une petite chose sur les deux derniers matchs dont tu as parlé, Thierry.
Oui, avant d'enchaîner avec l'OM.
Avec l'OM. Auxerre, il marque à la 89e. Mm. Sur un corner, d'ailleurs. Mais Rennes, ils ont raté ce qu'ils ont voulu. Ils ont le gardien d'Auxerre, Léon,
oui,
qui est
Donovan
un très bon
Léon,
gardien,
ouais. qui fait partie des très bons portiers de cette Ligue 1.
Très bon portier de la Ligue 1. A fait un gros match, mais Rennes, ils ont raté ce qu'ils ont voulu. Et après, un corner, 89e, coup de tête du capitaine d'Auxerre, là, le Brésilien Jubal.
Oui, Jubal,
but, voilà.
qui avait marqué déjà
qui arrivent,
face à l'OM.
Hein.
Et sur le match Rennes-Strasbourg, nos auditeurs en entendront sûrement parler, surtout sur les réseaux sociaux. Monsieur Turpin a encore frappé avec.
Oui, c'est vrai, c'était Monsieur Turpin qui était aussi fait lors de cette rencontre. Il y a une polémique avec le président rémois Jean-Pierre Caillot qui
oui,
s'est.
Oui, parce qu'il y a une action à la 88-89.
On peut l'imaginer,
À 1-0 pour Strasbourg.
Je crois que c'est le joueur japonais Junya Ito qui est impliqué sur l'action.
Voilà, qui est bousculé, mais alors il n'a même pas le ballon. Le défenseur de Strasbourg vient le percuter et le pousse, mais le pousse les deux mains en avant, quoi. Il y a un péno gros comme une maison.
C'était plus que flagrant en ayant vu les images.
Et ça a fini d'ailleurs en bagarre générale avec deux cartons rouges et tout.
Ça a vraiment une fin de rencontre très très houleuse sur la pelouse du Stade de l'Oise.
On attendait M. Turpin qui puisse calmer les débats. Ça n'a pas été le cas.
Et finalement, il n'en a rien été.
Il est allé voir la VAR pour calmer un peu. Et il a refusé d'y aller. Il n'y est pas allé. Et alors que quand tu regardes les images.
Une tort plus que préjudiciable
voilà,
de sa part.
Surtout qu'il y a eu une autre action litigieuse avec une action où il y a un joueur de Reims qui fait une main, il laisse jouer parce que l'action continue. Le joueur de Reims égalise un partout, mais il touche aussi le ballon de la main, donc il refuse le but, mais il ne revient pas au pénalty.
Ça fait partie de cet ensemble de reproches que l'on peut faire à cet arbitre
donc
sur ce match-là.
C'est quand même un vrai problème. Il semblerait que la VAR n'ose pas contrarier M. Turpin et lui dire « va voir les images au moins ».
C'est ce que j'avais cru comprendre.
En tout cas, ça a été un match de Ligue 1 qui a été de nouveau entaché par plusieurs erreurs et plusieurs fautes d'arbitrage. Après les polémiques que l'on a connues ces dernières semaines.
Ou des interprétations de mauvais aloi et ne pas, je dirais, faire le travail demandé. Aller voir la VAR quand il est demandé de le faire. Et ça a été plus que préjudiciable, je me répète.
Quand on sait que Reims est barragiste actuellement... Une égalisation, un pénalty sifflé alors qu'il est mérité, Ben ça peut faire un point, ça peut te maintenir. C'est quand même grave que l'arbitrage français, on verra les réactions, comment ils font. D'ailleurs, Jean-Pierre Caillot, il dit les réunions de la commission d'arbitrage avec M. Gauthier, j'irai plus, ça sert à rien. Quoi. Ouais.
Monsieur Gauthier, qui est le patron de l'arbitrage français.
Il n'en découle que du stérile dans ces réunions. C'est quand même plus que problématique, on se répète, mais on ne va pas changer un ensemble de faits qui sont présents. Dans le championnat de France, l'arbitrage étant un facteur essentiel, et malheureusement, la justesse infinie n'existe pas à ce niveau-là.
Mais finalement, je m'aperçois qu'on n'en sort jamais de ces problèmes d'arbitrage tout au long de la saison. Ça devient récurrent chaque semaine, à chaque journée de championnat.
Patrick, tu parlais des points, justement.
Il n'y a pas une rencontre de Ligue 1 qui n'est pas...
où il n'y a pas une journée où il n'y a pas un problème. Et on en parlait avant le début de l'émission. Dimanche après-midi, je regardais le rugby Toulouse contre les Anglais de Sale
en H-Cup,
en Champions League rugby. Quoi. Voilà. Il y a eu un essai de chaque côté refusé pour des pieds. Vous savez qu'en rugby, la ligne de touche ne fait pas partie du terrain. Donc, si tu mets le pied dessus, tu es en touche.
Oui, il ne faut pas la...
C'est, l'arbitre n'a pas vu, l'arbitre de touche non plus. C'est le VAR qui a signalé. Et en rugby, on te montre, tu vois les images, le public les voit et l'arbitre, il explique, pied sur la ligne, voilà. Alors qu'en football, y a une action litigieuse et même psychologiquement d'aller voir, ça calme. Tu fais entre guillemets semblant que tu vérifies, mais au moins ça calme les incidents parce qu'à Reims, il y a eu bagarre, il y a eu des échauffourées entre joueurs.
Avant de les calmer, ça évite qu'ils se produisent.
Ça évite qu'il y ait des incidents, quoi. Voilà. Enfin.
On devrait prendre exemple sur nos amis rugbymen. C'est vrai que du côté du ballon ovale, ça ne se passe pas de la même façon. Et je pense que nous, les footeux, on a beaucoup à apprendre dans ce domaine.
Un tas d'éléments, un tas de facteurs qui font qu'on est loin d'arriver à ce niveau-là dans le football. Ouais.
Voilà. Donc, une fois avoir fait ça, on va parler de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc,
je dirais un petit mot. Malheureusement, nous avons appris le décès de quelqu'un que nous connaissions et avec un grand respect que nous partageons, une passion commune.
Un grand supporter de l'OM qui nous a quittés en début de semaine et auquel on voulait vraiment avoir une grosse pensée et vraiment faire un clin d'œil parce que ça a été vraiment...
Merci à toi, Stéphane. Sorrento, pour tout ce que tu as donné pour ce club, pour ces groupes, pour les amis, pour le football, pour le supporterisme en général. Ouais. Et voilà, des ultras aux fanatiques.
Voilà, un supporter emblématique qui nous a quittés en début de semaine et à qui on pense très fort, lui et sa famille.
Il y a eu d'ailleurs un hommage hier soir avant le match auquel le club était associé. Et c'est vrai que moi, je l'ai connu comme ça, quoi, dans les années 80. C'est un des fondateurs des Ultras.
Absolument.
Qui, en 84, est le premier groupe de supporters à s'être créé. Et c'était la vieille école. Moi, j'ai eu fait des déplacements avec lui. Alors, bonjour, bonsoir, on n'était pas du tout proches. Mais c'était le mec qui était responsable
qui
s'occupait de l'animation. Quand il voyait un gars un peu chaud, il allait le calmer. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un mec qui s'occupait très, très bien et de son équipe. Et puis, c'était un des capots. C'est lui qui lançait les slogans.
C'est lui qui lançait les chants dans les virage.
Il a même écrit plusieurs. Il a participé.
Qui animait, qui menait le virage.
À l'écriture des chants et tout. Donc, c'était une personnalité du club, quoi.
Quelqu'un de très impliqué, de très, très attaché à son club, l'Olympique de Marseille.
On est avec toi.
Stéphane Sorrento, dit Crevette. On pense très, très fort à lui. Voilà, on va évoquer donc ce match hier soir au Vélodrome, en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Donc, succès des joueurs de Roberto De Zerbi, 3 buts à 2. Et après une semaine mouvementée, cette défaite la semaine dernière sur la pelouse de Reims, on évoquait le stade de Reims juste avant. Donc,
ça fait du bien.
Voilà, un grand ouf de soulagement pour les Olympiens avec ce succès qui néanmoins permet aux joueurs de Roberto De Zerbi de récupérer cette deuxième place de dauphin derrière le PSG.
On peut parler, je dirais, de nos concurrents, de nos adversaires sur le classement qui ont également contribué à ce fait, non pas notre victoire, mais ce classement que nous, auquel nous sommes actuellement.
Voilà, on vient juste d'en parler juste avant avec les résultats des équipes qui étaient assez proches de l'OM sur le plan comptable.
C'est extraordinaire et fabuleux ces six dernières journées, mais quel suspense pour les premières
Après,
équipes.
Après, qui est-ce qui disait que le championnat de France et la Ligue 1 n'étaient pas intéressants? Quand on voit le suspense que l'on a à six journées de la fin, c'est incroyable, c'est inimaginable.
Bon, hormis les premiers que nous avons cités il y a peu de temps, nous sommes donc à la seconde place à 52 points. Monaco, évidemment, Thierry, nous allons évidemment en reparler.
Justement, puisque ça fait partie des prochains adversaires, dès le week-end prochain, lors de la 29e journée. Un déplacement très compliqué pour nos Olympiens en principauté de Monaco.
J'espère qu'il ne le sera pas pour toi, en tout cas. Je serai avec toi de tout cœur. Donc, Monaco est troisième à 50 points. Alors, quel match ? Strasbourg, qui remonte le bout de son nez. Quelle équipe ! Quel entraîneur, quelle jeunesse formidable, 49 points quoi. Lyon à 48 points, pétard. Nice est toujours là, 47 points, mais un peu plus bas. Et Lille, malgré une défaite, se retrouve à 47 points. Quelle ligne droite, quel suspense.
Cette équipe alsacienne de Racing Club de Strasbourg, elle est quand même surprenante avec son entraîneur, ce jeune entraîneur britannique, Liam Rosenior, qui fait des miracles avec cet effectif.
Un très jeune effectif, quelle prestance, quelle magnifique
cette équipe strasbourgeoise
dans le jeu.
Qui a fait un match impressionnant face à l'Olympique Lyonnais la semaine dernière à la Méno, et là qui est allé s'imposer 1-0 à Reims et qui occupe la 4e place de cette Ligue 1. Ça fait 20 ans que le Racing Club de Strasbourg n'a pas joué de Coupe d'Europe.
Voilà. Et après, le truc qu'il y a, c'est que c'est une équipe dont personne ne se méfie. Parce que tu les vois arriver maintenant au sprint, mais jusqu'à présent, c'était les autres qui étaient. Donc, quand tu recevais les gros, les Monaco, les Lyon, les l'OM, bien entendu, Lille et tout. Les mecs, ils jouent à fond. Strasbourg, personne ne s'en méfie. Alors que c'est
une équipe qui a les cartes en main, puisqu'elle affrontera le Paris Saint-Germain à trois journées de la fin, je crois, le premier week-end du mois de mai.
Personne n'est dû, pas à présent. Il est vrai que là, cette équipe, il faudra compter sur elle. Et dans le sprint final, ils sont prêts à accéder à une qualification en Champions League.
Sur ce qu'on peut voir des matchs, moi, j'ai eu l'occasion de voir trois matchs là ce week-end. Les mecs, ils doutent pas. Mais ils ont une confiance extraordinaire. Alors que j'ai regardé samedi soir Lyon-Lille, les Lillois, ils sont morts.
C'est plus compliqué.
C'est vrai que cette équipe de Brugnon-Genesio, j'ai l'impression que là, elle est en train de ressentir le contre-coup de la campagne européenne en Ligue des Champions.
On rappelle qu'ils ont eu quatre matchs avant.
Avec le préliminaire. C'est l'équipe française qui a disputé le plus de rencontres.
Cette accumulation de matchs.
Moi, j'ai été frappé dans le match. Jonathan David, qui est un super joueur.
Il est complètement passé au travers, l'attaquant canadien.
Bouillie complet, le mec.
Les sélections en équipe nationale, qu'il a donné énormément de matchs.
C'est vrai que là, il a joué la phase finale de la Gold Cup pendant la trêve internationale au mois de mars.
Avec le Canada, et tu sens que le gars, il est free. Il y a Haraldsson, que j'avais trouvé très bon contre l'OM, qui lui aussi marque le coup.
L'international islandais.
Et voilà, ils ont un groupe qui est solide, mais qui n'est pas non plus, pas le PSG. Ils n'ont pas deux joueurs par poste.
Bon, Lille n'est pas totalement décroché malgré ce. Ils sont 7e à 47 points avec Nice.
C'est quand même une équipe qui a fait la mauvaise opération au cours de ce week-end.
Parce que
défaite au Groupama Stadium face à Lyon.
Surtout que sur le vu du match, ils auraient pu ramener un match nul.
Difficile de parler de mérite dans ces matchs-là, mais c'est sûr que
les Lyonnais les ont eus à la fin à Lagnac, et qu'eux, ils étaient free. Et ça compte, hein. Strasbourg ne joue pas de Coupe d'Europe, ils ont une équipe, il y a peu d'internationaux, des jeunes, mais pas beaucoup.
Bon, ce qui n'est pas le cas de Lyon.
Lyon qui disputera son quart de finale aller face à Manchester United, hein. Jeudi soir au Groupama Stadium de Décines.
Et ça, ben ça, ça pèse, hein, quand tu arrives à un moment donné. Moi, samedi soir, Lyon-Lille, tu vois que les mecs, ils sont au bout du rouleau, quoi. Enfin, tant mieux pour nous. Puisque
donc voilà. Ce sprint final est plus que passionnant et c'est quelque chose qu'on va savourer au fur et à mesure. Mais en ce qui nous concerne pour le week-end, je pense qu'il a été beaucoup plus bénéfique pour nous. En tout cas, je le ressens ainsi, en espérant que...
Et sur ce match, cette réception de Toulouse hier soir au Vélodrome, toi Patrick, vu du stade et du virage, comment tu perçois cette victoire et ce succès des joueurs de Roberto De Zerbi après cette semaine compliquée vécue.
Très heureux à la fin du match. D'ailleurs, le virage est resté chanté pendant un bon petit moment, voilà. Parce qu'on a tellement eu peur pendant le match... Parce qu'on a une ligne de défense qui est effrayante.
Inexistante, voilà, permettez-moi.
Un petit mot concernant les absences. On a vu que Leonardo Balerdi s'est blessé la semaine dernière. Il sera out jusqu'à la fin de la saison. Donc malheureusement pour le capitaine marseillais, c'est préjudiciable et c'est très, très pénalisant pour cette équipe de l'OM.
J'ai envie de dire le dernier des Mohicans. C'est idiot peut-être de dire cela, mais il est vrai que... Une charnière centrale, qui mettre ? On n'a pas d'arrière à part Cornelius, qui est le seul défenseur central valide pour l'instant, pour les prochaines semaines, dans cette équipe.
Il y avait Michael Murillo qui faisait son retour, l'international panaméen qui était de nouveau titulaire hier soir.
Il a intégré, comme il faisait, une défense à trois qui n'a pas bougé, sauf que... Évidemment, Murillo, on était bien content de le revoir hier au soir.
C'est ça le drame d'ailleurs, on en parlait hier soir avec les copains au stade.
Sur la composition d'équipe, la charnière Condolbia à Cornelius avec le brassard donné par Roberto De Zerbi à Geoffrey Condolbia.
Tu fais bien de le signaler car on aurait pu penser quand même qu'il le laisse peut-être. Balerdi n'est pas là, il avait donné à Rabiot face au match au Paris Saint-Germain.
C'est vrai qu'en l'absence de Pierre-Emile Højbjerg, on pensait tous que... c'était
ou
l'international français Adrien Rabiot qui allait récupérer le brassard et finalement...
Alors Thierry, peut-être faut-il voir sur ce brassard qui a été remis justement à Condombia, peut-être son implication dans les vestiaires, peut-être qu'il apporte un peu plus aux joueurs, qu'il gueule un peu plus, il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a eu quand même des réunions et des discussions assez vives entre les différents protagonistes, et ça peut se comprendre après ce match perdu face à Reims. C'était presque une catastrophe. Donc là, évidemment que ça va un peu mieux. Pour le football en lui-même, il nous manque une défense, Patrick.
Après, sur le match... Il y a deux mi-temps. La première mi-temps, elle est catastrophique. On aurait pu être mené à la pause. Il n'y avait rien à dire parce que Rouli a quand même eu 2-3 sorties devant des attaquants. Ou si les mecs sont un peu meilleurs, on peut en prendre un second. Ouais.
Notamment l'attaquant camerounais Franck Magri du TFC qui s'est montré dangereux à plusieurs reprises.
C'est surtout le
buteur.
Qui a marqué le deuxième.
Le premier but. Surtout le jeune attaquant Babika, l'ailier qui est très rapide.
Xavi Babika,
chaque fois qu'il avait le ballon, Condogbia, il voyait vaguement le numéro de loin. Et il s'est présenté deux fois en tête-à-tête avec Rouli, qu'il a d'ailleurs valu un carton parce qu'une fois, il est allé le pied à l'avant. Mais heureusement que Rouli ne s'est pas dégonflé.
Quelle belle anticipation, placement fort juste sur cette action-là.
Et là, il te sauve la baraque. Sur les deux buts, il ne peut rien, il est fusillé les deux fois. Mais il te sauve la baraque, mais chaque fois qu'il partait en contre, tu étais en danger. Et heureusement que les mecs, ils sont...
Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, on disait que malheureusement pour l'Olympique de Marseille, son gardien de but, Jeronimo Rulli, l'international argentin, n'était plus autant décisif qu'en début de saison. Donc,
tu as raison. C'est-à-dire qu'en début de saison, c'était des miracles qu'il accomplissait. Là, par contre, il tient la route plus que cela. Heureusement qu'il est là pour ses partenaires. Au-delà du fait qu'il arrête beaucoup d'occasions adverses, il encourage et il replace et il relance extrêmement bien avec ses partenaires.
Après, on disait qu'il était déterminant parce qu'il a arrêté plusieurs pénaltys. 3 ou 4 de
oui.
fil.
C'est vrai que alors, quand on a vu qu'il a été décisif aussi voilà. dans l'exercice des pénalties.
Là, il n'y a pas de péno. Par contre, les deux buts, il ne peut rien faire, il est fusillé. Mm. Et par contre, ce qu'il a où il apporte, c'est dans la relance. Parce qu'il monte, il joue oui. beaucoup, on lui donne beaucoup le ballon avec les pieds, il est très calme. Et alors que certains de ses partenaires en font des relances qui te font peur à 30 mètres,
mais
ils perdent les
ballons.
Mais toujours
aussi approximatives.
Lui, des relances assez hasardeuses,
voilà,
si je peux me permettre.
Absolument.
Voilà, et donc lui, quand même, il est pas mal là-dessus pour un gardien. Mais ta défense, il y a un vrai problème. On en était à être heureux et tout content alors, que Murillo soit revenu, parce que c'est le
oui,
seul qui tient la route.
Je
quoi.
Suis absolument d'accord, mais je voulais faire une parenthèse, si tu es d'accord. J'ai l'impression, Thierry, Patrick, que finalement, à entraîneur adverse, que faire ? Très simplement, on joue toujours aussi haut, et c'est évident, même si sur l'ensemble de l'équipe, il y a des disparités, mais ils mettent une pointe ou deux, rapide devant et sur les contres à chaque fois on se fait prendre en défaut et ce qui s'est passé au match précédent également hier sur le match d'avant voilà, mais tous les entraîneurs adverses vont profiter de nos faiblesses. Alors Kondombia il a toutes les qualités du monde, c'est un milieu de terrain, il ne faut pas l'oublier, sauf que ben, c'est pas un défenseur et en rapidité il a d'énormes lacunes, ce n'est pas le seul en défense, il faut que là trouver une solution. Là, le bas peut blesser
parce
sur
que
le match à venir.
Là où tu as un problème, c'est que...
Après, vous pensez peut-être que le fait de voir Roberto De Zerbi lui attribuer le brassard, c'est peut-être dû à son expérience. On connaît son passé d'ancien
oui,
joueur du championnat
très
espagnol.
Très certainement.
Avec Valence, l'Atlético, c'est quand même
c'est un joueur,
joueur qui a évolué dans des grands clubs.
Voilà, qui a de la bouteille.
Et son comportement,
je pense qu'il n'a pas voulu le filer à Rabiot. À Paris, c'était symbolique.
Ouais. Oui, on savait que c'était le retour d'Adrien Rabiot au parc.
Il n'a pas voulu le donner à Rabiot. Parce que comme il s'est mis en avant sur la gueulante, il n'a pas voulu non plus, je pense, froisser. Peut-être que Rongier, qui paraît-il, a parlé un peu dans le vestiaire, c'est pareil. Mais de toute façon, c'était les deux seuls. Mais il y a quand même un problème dans cette équipe. Alors après, on peut espérer que la deuxième mi-temps, qui a été bien meilleure et qui a bu quand même, qui a gagné... fait qu'on peut espérer que ça relance un peu. Parce que moi, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que ta défense est très friable. Mais
voilà,
que
parlons de cela. N'oublions pas l'épée de Damoclès qu'on a eue jusqu'au bout.
Tes joueurs de couloir, surtout Luis Enrique côté droit, sur le premier but de Toulouse, le but égalisateur.
Le but égalisateur de Franck Magri.
Il redescend pas.
Il est fautif.
Voilà, donc Murillo se trouve seul avec deux mecs. Voilà, et c'est celui qui a marqué contre son Cannes, d'ailleurs. Le
Chilien Suazo.
Quel but magnifique.
Qui a mis un
Gabriel Suazo, qui s'est ressaisi, puisque c'est lui qui fait
la passe sur le
but égalisateur de Magri.
Mais le problème, c'est qu'il est seul, et que Murillo, il a deux mecs. Quoi. Il a l'ailier sur qui il est au marquage, et le mec qui est monté dédoublé, et ton homme de couloir, il n'a pas suivi. Merlin a été meilleur côté gauche. Offensivement, il a été bon, mais même défensivement, il a beaucoup plus reculé. Et là, le mec, il n'a pas suivi. Donc, comme c'est Greenwood qui est du côté droit offensif, alors que du côté gauche, il y a Merlin qui a fait le boulot, puis Rabiot, il redescend.
Ouais.
C'est
vrai que côté droit, Enrique et Murillo, cette complicité-là, Enrique manquait d'implication, j'ai trouvé sur ce match-là.
Il a manqué un peu. Et d'ailleurs, l'entraîneur de Toulouse, elle a dit en conférence de presse d'après-match, il a dit on avait mis Babical et l'ailier droit. Côté gauche, parce qu'on sait qu'ils attaquent beaucoup, parce qu'il est très rapide, on avait mis deux attaquants très rapides. Parce qu'ils savent que dans la profondeur, tu gênes.
L'accès à gauche, Kondombia a eu énormément de mal, justement. Ça partait dans le dos à chaque fois.
Ouais. Et toi, tu n'as pas su, ni avec tes deux milieux axiaux, Bennacer et Rongier. Rongier a fait son match, Bennacer a été limite.
Oui.
Mais bon, après Bennacer,
je l'ai trouvé plutôt moins bon sur ce match international algérien.
Oui,
Bennacer.
Il a été longtemps blessé en début de saison. Il était bien revenu, mais on sait que quand tu as une blessure un peu longue, surtout des problèmes musculaires, mollets.
Oui, là, on sait qu'il est revenu depuis la semaine dernière, puisqu'il a raté la trêve internationale avec l'Algérie. Il a déclaré forfait au dernier moment au Parc des Princes juste avant.
Si c'est, joue, c'est qu'on
c'est
avait
un passage délicat pour
et même Benacer. Et même à l'OM, hein, l'entraînement la semaine dernière, il était exempté la moitié du temps, il faisait des entraînements partiels parce que il a un pépin physique. Donc il n'a pas été très bon.
Très compliqué d'aligner une équipe.
Et comment vous expliquez tous ces problèmes physiques qui interviennent en fin de saison, alors que l'OM n'a pas disputé de Coupe d'Europe, contrairement à d'autres formations françaises.
C'est assez légitime malgré ce.
À raison d'un match par semaine, on dénombre quand même pas mal de blessés. Si je rappelle que Amine Gouiri a déclaré forfait hier soir.
Oui, après, il y a des exceptions. On peut prendre joueurs par joueur.
Il y a Pierre-Emile Højbjerg, Leonardo Balé. On voit que là, on est rentré dans la dernière ligne droite et il y a beaucoup de joueurs qui commencent à fréquenter l'infirmerie.
Que ce soit très énergivore de la manière dont nous jouons, il ne faut pas le nier. Et il y a aussi le fait qu'il y a certains joueurs qui ont des soucis de santé et qui sont récurrents. Tu parlais de Benacer. Alors, il est vrai que pour Gouiri, il avait un petit souci de santé également et ça reste.
Alors,
après, pour revenir...
Sur, par exemple, il y a des joueurs comme Gouiri. Il a joué les deux matchs avec l'équipe d'Algérie deux fois 90 minutes. Et on sait qu'en Afrique, suivant le terrain où tu joues sur des terrains en un état catastrophique.
C'est vrai, mais d'ailleurs, Roberto De Zerbi l'a dit qu'il est rentré très, très fatigué de la trêve internationale. Après avoir disputé deux matchs pour les qualifs de la Coupe du Monde.
Donc là, il a joué à Reims où il était... Il a beaucoup couru dans le vide parce qu'il n'avait pas de ballon. Et donc là, tu l'as laissé au repos. Et je pense que tu as des joueurs...
Mais c'est vrai que ces deux matchs avec son équipe nationale face au Botswana et au Mozambique, ça l'a quand même très, très fatigué.
Tu vas jouer sur des terrains pourris et on a des joueurs sud-américains. Je pense à Murillo qui est international au Panama. Balerdi... qui joue avec l'équipe d'Argentine. Tu as des 18h, 19h d'avion après une période.
C'est vrai que là sur cette trêve internationale, il y a Leonardo Balerdi qui a joué un petit quart d'heure à Montevideo lors du premier match face à l'Uruguay et qui n'est pas rentré en jeu lors du deuxième à Buenos Aires face au Brésil. Et Geronimo Rulli, mais au-delà de ça, il y a quand même le voyage entre l'Europe, la France et l'Amérique du Sud. L'Uruguay et l'Argentine.
Nous n'avons pas un nombre d'internationaux assez prolixe que cela dans l'équipe. Mais malgré ce, vous avez tout à fait raison. Mais maintenant, une parenthèse du terrain. Hier, c'était quand même une pantalonnade. Quelle idée d'arroser autant la pelouse concernant le stade Vélodrome. Car j'ai trouvé évidemment toutes ces glissades de part et d'autre. Ouais. Alors j'ai dit, on se dit, en écoutant, en voyant, mais changer les crampons. Et puis finalement, je pense qu'ils ont... Faudrait peut-être en parler au responsable de l'arrosage automatique du stade.
C'est peut-être les températures qui se sont radoucies sur la région marseillaise.
On va dire ça comme cela. Ça n'a pas facilité la rapidité du jeu en ce qui nous concerne, mais bon.
Ça, c'est sûr.
C'est un fait.
Après, j'écoutais, c'était à RMC, c'était Larquet qui parlait et qui disait il y a quelques semaines qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de problèmes de crampons parce que les joueurs, c'est des pantoufles, C'est plus les vieilles chaussures en cuir.
Oui, les crampons utilisés de nos jours.
Ce ne sont plus les mêmes. Ouais. C'est des crampons beaucoup plus légers. C'est, tu joues mieux. Tu peux jouer de la semelle.
On ne remet pas en question la qualité des terrains et des pelouses.
Non, pelouses sont hybrides pour la plupart, dans la nôtre.
Le problème, si tu veux, c'est que si tu es moins bien cramponné parce que tu sens mieux tes chaussures, elles sont plus légères, tu peux jouer avec la semelle, ce qu'il y a 30-40 ans, personne ne faisait. Il y avait Pelé, mais c'est tout. Et c'est aussi, tu es un peu plus en difficulté. Et moi, j'ai le souvenir en première mi-temps, de Kondogbia qui vient au marquage sur Babika, sur l'aile gauche.
Il a glissé.
Glisse et l'autre, il s'en va seul. C'est là qu'il se retrouve en tête-à-tête avec Rulli. Heureusement que le mec joue mal le coup. Mais le mec, tu as glissé, donc tu es mort.
Je pense qu'un joueur avec son expérience, tout de même, au niveau cramponnage, il sait ce qu'il fait. L'arrosage automatique a un peu dépassé le seuil recommandé hier au soir. Ceci dit...
On n'a pas affaire à des joueurs et des footballeurs amateurs. Je pense que dans le choix...
Bien sûr.
Choix des équipements et des crampons, ils savent plutôt ce qu'ils font. Donc... Et je ne sais pas si on peut prendre ça en considération comme excuse.
Mais ça ne suffisait plus de changer de cramponnage, mais enfin, à ce niveau-là. Bon, sauf que l'équilibre...
Voilà, après, comme tu disais, Franck, il y a eu des joueurs des deux équipes qui ont dérapé. Il se peut qu'il y ait eu... Parce que ce n'est pas partout non plus. Dans la surface, il n'y a pas eu de problème. Donc, c'est plutôt sur les ailes, sur des trucs.
Mais là, apparemment, la pelouse du stade Vélodrome a été peut-être un peu trop arrosée avant le coup d'envoi.
C'est possible, mais disons qu'il y a des problèmes qui sont aujourd'hui beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire que les mecs, ils aiment bien être à l'aise. Ils aiment bien avoir leurs chaussures, en dehors des problèmes de marque. Hein. Mmh. Et donc, tu peux avoir des joueurs qui... l'arqué dont je parlais de lui sur RMC, il disait on tâtait la pelouse, on reconnaissait le terrain, on choisissait les crampons et on vissait plus ou moins en fonction de la pelouse qu'on avait repérée. Quoi.
Mais c'est vrai que maintenant, de nos jours, quasiment tous les joueurs ont des contrats d'équipementier concernant
les marques de pantoufles.
Les crampons. voilà. Comme tu le dis si bien, Patrick.
Oui.
Les pantoufles.
Oui, j'apparente ça à cela, car il est évident que c'est pas Cendrillon qui joue au foot, même.
Oui, oui, oui. Non, mais tu te sens plus à l'aise.
Ouais,
mais voilà. Et après, pour revenir au match, moi, ce qui me donne un petit espoir par rapport au match de Monaco.
Voilà, justement, prochain rendez-vous pour les Olympiens, samedi après-midi à 17h sur la pelouse du Stade Louis II.
Ça arrive très vite.
C'est que tu as fini un deuxième mi-temps en marquant. Alors, tu étais quand même, parce que quand Toulouse est revenu à 3-2, tu as tremblé jusqu'à la fin.
J'ai parlé d'épée de Dame Loclès, qui était toujours présente, même en menant 3-1.
Mais tu as quand même fait une deuxième mi-temps de bien meilleure qualité.
Ouais. Et comment l'expliquer, cette première période si médiocre, si mauvaise de la part de nos Olympiens?
Moi, je vois deux explications.
C'est peut-être les consignes données par l'entraîneur, par Roberto De Zerbi, qui...
Je pense pas.
C'est peut-être le plan mis en place par le technicien espagnol du TFC, Carles Martinez Novel,
à défaut. Très certainement. Maintenant,
apparemment, l'OM avait visionné la prestation des Toulousains face à Brest la semaine dernière au Stadium et cette défaite 4-2. Des joueurs toulousains. Ouais.
Mais Toulouse aussi a visionné nos derniers matchs. Quoi.
Il l'a dit en conférence de presse d'après-match, il a fait comme les autres, tu joues très bas, tu mets des mecs très rapides pour aller les contre, et dès que tu as une occasion, tu tentes des passes en profondeur.
Ce que font tous nos adversaires.
Voilà, ce que fait tout le monde, parce que tout le monde a lu ton jeu. Et là où on peut faire peut-être un reproche à De Zerbi, moi je ne le ferai pas, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est que tu as continué à jouer comme si tu avais Balerdi. C'est-à-dire ta défense centrale qui fait la relance.
Ben, on ne déroge pas à cette défense à toi.
Alors, tu as Kondogbia qui a quand même un ancien milieu, c'est un milieu reconverti qui dépanne en défense centrale, qui a quand même une qualité de passe assez correcte. Et quand même, Balerdi, c'est le joueur qui touche le plus de ballons à l'OM.
C'est vrai qu'il est quand même essentiel dans ce dispositif.
Voilà, c'est un Argentin qui a une belle qualité technique.
Cornelius ne peut pas remplacer Balerdi.
Et Cornelius, tu lui demandes de faire plus ou moins pareil. Mais Cornelius, il n'a pas la moitié de la qualité technique et de la qualité de relance. Et peut-être il aurait fallu... Alors, moi, j'ai remarqué que les deux milieux récupérateurs, Rongier Benacer, descendaient pour construire devant leur défense. Mm-hmm. Ils descendaient pas mal. Mais tu as eu un blocage sur le fait que tu as voulu continuer à jouer, mais que tu n'as pas les qualités pour le faire.
En fait, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, sur le plan défensif, il y a quand même des mauvais choix qui ont été réalisés.
Lors du mercato hivernal, c'est peut-être là qu'il fallait s'en soucier.
Ce joueur international canadien qui est Derek Cornelius, on s'aperçoit semaine après semaine, match après match, que c'est quand même un joueur qui est assez limité.
Relativement limité techniquement, plus que cela.
Voilà. Mais il y a un autre Canadien qui a fait défense avec lui au Canada, qui est Bombito, qui joue à Nice.
À l'OGC Nice,
Et lui aussi. Mais à Nice, derrière, il a Youssouf Ndiaye
Chimé.
Et puis Dante. C'est eux qui relancent. Lui, il se contente de défendre.
Et Cornelius a la responsabilité importante dans cette défense à trois.
Et là, il n'a pas cette capacité technique. Mmh. Et donc... Et je pense que ça lui met le stress, que ça lui met un poids énorme. Et donc, il est, tu le vois, tu le sens. Moi, ça me rappelle Brassien, début de saison, où dès qu'il avait le ballon, il tremblait. Quoi. Mmh. Et finalement, tu as Murillo qui, lui, fait de démonter, a pas mal à porter sur son côté.
D'ailleurs, vous noterez qu'il a changé de côté en seconde période.
Oui, parce qu'il peut jouer côté gauche ouais. Et que Lirola est exclusivement droitier. Mm-hmm. Parce que quand même, à l'heure de jeu...
Il a gardé plutôt axial droit.
C'est pas un hasard.
Oui,
si,
c'est vrai que Lirola, il est rentré à un peu plus d'une demi-heure. Et oui, c'est vrai qu'en plus...
Il a remplacé Cornelius parce que l'autre, il voyait bien qu'il était à la rue. Et donc, il a
il était temps de s'en rendre compte. Ouais.
En plus, Lirola, on sait qu'il s'est fait remonter les bretelles.
Oui,
sait que c'est...
Comme beaucoup d'autres joueurs, mais malheureusement...
Non, mais bon, on va juste expliquer à nos auditeurs qu'apparemment, il y a eu un petit échange un peu tendu entre... Lirola et son entraîneur Roberto De Zerbi qui lui a fait...
Ils maîtrisent la même langue, presque, langue latine.
Voilà, qui se sont connus d'ailleurs en Italie sous les couleurs de Sassuolo, c'est vrai que pour l'espagnol, le technicien italien lui a reproché de son manque d'implication et son manque d'effort, alors que ça a été le seul à croire en lui en début de saison, alors que les dirigeants marseillais voulaient s'en séparer.
Après, moi, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que j'écoutais sur l'équipe, c'était Djibril Cissé qui était à l'équipe de Greg et qui parlait, qui disait, mais dans les vestiaires, des trucs comme ça, des réflexions, il y en a toutes les semaines, dans tous les clubs. Ouais.
Mais après, c'est l'impact, c'est
monté en épingle parce que c'est sorti, c'est donc dans l'équipe qui a vu un
article. C'est l'équipe qui a révélé ces tensions dans le vestiaire.
Voilà. Il n'y a pas de vestiaire où il n'y a pas de fuite.
Voilà. Ouais. Mais le problème, c'est que Lirola, il lui a fait une remarque qui, en gros, il dit « Je suis le seul qui t'ai fait confiance, alors rends-moi la confiance. Ouais. » Mais il n'empêche qu'il a mis sur le banc, qu'il a fait rentrer. Ouais. Donc, il n'y a pas un clash avec le joueur.
C'est évident. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de clash en particulier avec lui, ni avec d'autres. Mais il y a eu des remises en question, je l'espère, de certains joueurs et des choses remises en place de la part de l'entraîneur.
Après, quand il lui dit « Tu manques d'implication », il lui dit devant tout le monde, mais il se peut qu'il vise d'autres joueurs.
C'est évident.
À qui il hésite à le dire de cette manière-là, parce que voilà, quoi. Et c'est vrai qu'hier, on a eu l'exemple.
Après, c'est au niveau de la gestion. Je pense que chaque entraîneur, chaque coach a sa manière de faire. Et puis bon, là, on voit que Roberto De Zerbi, depuis le début de la saison, il ne change pas sa ligne de conduite.
Alors, je voulais
et c'est ce qu'on retrouvait sur les bancs de Sassuolo, du Shakhtar et de Brighton aussi lors de ces...
Je voulais vous questionner concernant la base offensive. Ça n'a pas été un cadeau ni de Mopé pour lui. Isolé, évidemment, sur le flanc... de l'axe de notre attaque, évidemment qu'il s'en est pas très, très bien sorti, l'entrée de Rowe qui a été favorable, mais le soutien sur les côtés n'était pas digne de ce nom. Alors bon, il est vrai
c'était un match compliqué pour Neil Mopé,
Greenwood qui est évidemment qui a le génie dans les pieds, mais qui l'a démontré sur une action, sur un tir, mais ne s'implique pas autant avec ses partenaires. Et on sent bien que au-delà du fait qu'il n'aille pas au bout de ses actions, qu'il n'aide pas forcément ses partenaires, ça peut être un handicap pour la suite. Alors au niveau offensif, il faut peut-être s'interroger également.
Oui, alors le problème que tu as, c'est vrai que...
Et là, le questionnement dont tu fais part, Franck, c'est le déplacement à Monaco samedi nous attend.
Mais
par rapport à ce match d'hier soir face à Toulouse, comment on prépare la rencontre face à Monaco? Dans quel dispositif comment Roberto De Zerbi va articuler sa semaine de travail à partir d'aujourd'hui?
Je pense qu'il a relativement bien joué, De Zerbi, parce qu'actuellement, Il y a trois mois, c'était Dieu. C'était à côté, Zidane, c'était un chiotte, quoi. Ah. Voilà.
Est-ce qu'on cite, c'est encore le patron, celui qui gère le sportif de Zerbi. C'est lui qui a la main mise sur son vestiaire et sur... malgré les résultats...
On sait que Benatia et Longoria l'ont conforté dans le vestiaire cette semaine.
Il était pour lui.
Que McCourt, il est venu et qu'il lui a parlé et qu'il a conforté. Donc les joueurs, c'est clair, c'est lui, le boss.
Même s'il avait d'autres prérogatives, McCourt, évident que... Ouais.
Et je pense que simplement, il a été soutenu par les gros joueurs, Højbjerg, Rabiot, les mecs, ils ont parlé
les cadres du vestiaire.
J'en suis persuadé.
Voilà. Et donc, si tu veux... Par contre, ton problème, c'est que comme attaquant, tu as Guiri. Alors Mopé, il a un problème, il est lent. Ouais. Il y a deux, trois fois en première mi-temps, il est lancé en profondeur, le défenseur toulousain le rattrape.
Très compliqué de
c'est
le
vrai
laisser
que la,
tout seul.
Malheureusement, pour Mopé, la vitesse, ce n'est pas sa principale
qualité.
Ce n'est
pas sa qualité principale. Et il n'a pas la qualité technique de Guiri pour arrêter le ballon et jouer en remise en 1-2. Il n'a pas la même qualité technique.
Après, ce n'est pas le même gabarit. Ils ne sont pas dans le même registre.
De joueurs, voilà. Donc, c'est sûr que tu as un problème. Il est seul en point. Rabiot, c'est pas un offensif et en première mi-temps, Greenwood, il était aux abonnés absents. Voilà. Ouais.
Donc une fois n'est pas coutume,
ça, c'est bien
malheureusement.
De voir le...
Et donc, ce qu'a essayé de faire, moi, j'analyse le discours de De Zerbi après le match où il a insensé Greenwood. Tu essaies de relancer ton seul joueur offensif qui a du talent, quoi. En gros, disons-le.
Oui,
ne
nions pas les évidences.
Voilà.
Ouais.
Le mec, il a fait une action, il t'a mis un but de folie.
Un but d'anthologie, cette frappe.
Et les rares fois où il a fait des trucs, à un moment, en seconde mi-temps aussi, il part, il feinte, il crochette, il attire la défense, il décale Luis Enrique, l'autre, il croise trop sa frappe, mais une fois sur deux, ça doit aller au fond, ce ballon. Et donc, il a fait... c'est lui, après, il a eu la réussite et qu'elle a été contrée, mais la passe à Rabiot sur le troisième but, c'est lui. C'est le seul qui a
aussi,
du ballon plein
d'un
les
but
pieds.
Magnifique.
Donc,
il a du
relancer.
Génie, ce joueur.
Ah,
on l'a vu.
Oui. Après,
et je pense que c'est le facteur X pour aller chercher la Ligue des Champions sur cette fin de saison.
Donc, j'abonde dans ce sens.
Je pense que De Zerbi, il essaie de le relancer parce qu'il sait que c'est le seul qui est capable. C'est un peu Cherki à Lyon, Zegrova à Lille. Le mec,
ces joueurs qui sont capables de faire la différence pratiquement
différence.
À eux tout seuls.
Et donc, toi, tu n'as que lui. Parce que Rabiot a été le meilleur joueur du match, mais Rabiot, c'est un milieu relayeur.
C'est vrai que...
C'est pas un créateur.
Après, c'est un super joueur, mais dans un autre registre, avec d'autres qualités par rapport à Mason Greenwood.
Un registre offensif, le seul qui a du talent, il y a Guiri qui a du talent, mais qui est un peu... Puis son poste, s'il n'a pas le ballon, à Reims, il a fait un match correct, Guiri, mais il n'a pas un ballon.
C'est vrai que pour un attaquant, c'est le manque de ballon. Si l'attaquant n'est pas approvisionné, c'est très, très compliqué.
Après, l'entrée de Roux, justement, a été évidemment de bon allo.
Il a eu une action
fabuleuse. Bon, un but refusé.
D'ailleurs, il y a eu un but qui a été refusé par M. Pignard.
Évidemment qu'au ralenti, on peut le voir. Et je crois qu'à quelques centimètres près, c'est bien dommage, car c'était une très jolie
but. Je crois que c'est Rabiot qui est l'homme qui déborde et qui centre.
C'est Rabiot qui a l'origine de l'action.
Il est hors jeu de quelques de doigts de pied, comme on dit.
Ça se joue à trois fois rien.
Mais Rowe, il joue bien le coup, il met la tête, il passe devant le Toulousain, il met la tête et il marque. Il a fait une rentrée satisfaisante. Mais attention, n'oublions pas que les Toulousains, ils avaient 75-80 minutes dans les jambes. Et c'est Mopé, le pauvre Mopé, qui s'est fait le boulot, qui les a crevés. Quoi.
Ouais.
Mais voilà. Et après, je pense, moi, j'analyse les propos de De Zerbi comme étant mon seul joueur de qualité qui peut me faire le facteur X, c'est Greenwood.
C'est Mason Greenwood, bien entendu.
Et tu vas lui expliquer que s'il veut se trouver un gros club, il faut qu'il plante et il faut qu'il soit bon.
Il faut qu'il performe sur cette fin de saison.
C'est nécessaire de lui expliquer, mais évidemment que ce déclic-là, en tout cas, il faut que sur les six matchs à venir, il soit présent, qu'il donne tout et qu'il soit justement... Voilà, on attend de son talent.
On attend tellement plus. C'est vrai que
réaliste dans ses occasions.
Il fait partie de cette catégorie de joueurs qui est vraiment un cran au-dessus par rapport aux autres. Donc,
c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a un problème. C'est-à-dire
difficile
que le mec,
il
voit bien tous les jours l'entraînement, qu'il est au-dessus des autres techniquement et tout. Et qu'offensivement, c'est le...
Mais finalement, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être assez impliqué. Je veux dire, de ne pas en faire assez, malgré le talent débordant qu'il a. Je veux dire, on voit que c'est quand même un garçon qui pue le football. Il a vraiment des qualités extraordinaires.
Tout d'abord, ce sont ses coéquipiers qui doivent lui reprocher certaines choses de cet acabit, quoi, implication. Et évidemment que le collectif, au-delà de son talent hors norme, il faut qu'il aille le sens de ses coéquipiers.
Si tu prends les dernières saisons, tu as eu deux joueurs hors normes en attaque. Tu as eu Alexis Sanchez et tu as eu Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang.
L'attaquant gabonais.
Et les deux, Sanchez, c'était un monstre de boulot. Ouais. Il faisait un boulot et quand il engueulait les mecs, ils fermaient leur gueule parce que le mec sur le terrain, il se dépouille. Et là, tu as un mec super talentueux, mais qui joue un peu quand il a envie, quoi.
Voilà. Profil contraire.
Et à des moments, ça a été marqué dans la Provence, hein, nos confrères de la Provence. Une passe un peu longue, le mec fait, voilà,
il fait pas l'effort
longue,
pour y aller.
Il fait
aller,
pas
quoi.
L'effort. Et la balle est récupérée par une Toulousaine.
C'est pas admissible.
Il vient pas au pressing pour. Et donc, à un moment donné, tu as l'impression que c'est la star.
C'est cette attitude et
qui
pose problème et qui agace son entraîneur et ses coéquipiers aussi, je pense.
Parce que le bas blesse, là, complètement.
Et je pense que la semaine dernière, dans la déclaration d'Adrien Rabiot,
c'est lui qui est visé.
C'est lui qui est directement visé et concerné. Ouais. Hein.
Mais je pense un certain nombre de ses coéquipiers également, dont il fait partie de la tête de Gondol.
Voilà, je pense que... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, quand il a fait une réflexion sur l'investissement à Lirola pendant la semaine, derrière Lirola, qui est un remplaçant qui connaît bien, puisqu'il avait comme joueur à Sassuolo en 2018, donc ils se connaissent depuis longtemps, et qui a une mentalité tranquille, c'est pas un mec qui pose problème, tu as la possibilité d'envoyer un message à d'autres.
Mais ça a été le but de la manœuvre, je n'en doute pas.
Voilà.
Ben, il reste encore 5 petites minutes, donc je pense qu'on a fait le tour.
Est-ce que ce temps additionnel va nous être bénéfique?
Un petit mot, je pense qu'on a quasiment tout évoqué sur le prochain rendez-vous. Donc, c'est ce déplacement en principauté samedi après-midi.
Nos espoirs, nos attentes.
À Monaco. Donc, si vous voulez vous positionner, un petit pronostic avant de rendre l'antenne.
Je suis pas très pronostic, mais en tout cas, notre idée, je pense, c'est commune.
Oui, que la prestation des Olympiens hier soir vous a rassuré dans la perspective de ce match, ce
pas spécialement.
Gros rendez-vous?
En seconde demi-temps, il y a eu un mental meilleur. Il y a eu plus d'implication. Première mi-temps, c'est une catastrophe.
Deux mots qui riment, mental, fondamental.
Voilà. Mais je pense que notre problème, ça va être la défense. Parce que si tu prends un ou deux buts à la con, tu es mort. Il faudrait que Roulier retrouve le niveau qu'il avait en début de saison et qu'il fasse Jésus-Christ qui marche sur l'eau, quoi. Mais sinon, offensivement, et je pense que c'est tout le travail qu'a fait après match De Zerbi sur Greenwood, il veut que ce soit le plus grand joueur qui a jamais joué à l'OM et tout. Si lui, il se réveille et qu'il te met le feu... Parce que plus tu es dangereux offensivement, plus Monaco va faire attention de ne pas prendre des buts.
Voilà. Donc, pour réussir à contenir les attaquants monégasques.
La problématique est plus que différente.
Akliouche, Birette, Ben Seguir. On sait que
ça paraît mission impossible.
Mbolo, Golovin, Minamino. Oui, il y a du monde.
Il y a du potentiel sur l'aspect offensif.
Il va falloir que les milieux aident beaucoup. Il va falloir que les hommes de couloir travaillent et défendent, parce que c'est sûr que si tu en prends un ou deux, c'est plus le même match.
Ce que nous attendons de notre équipe, cette optimisation collective, et que chacun travaille pour son collègue et coéquipier.
Et après, Monaco, ils sont assez irréguliers quand même.
C'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon.
Et leur point faible, c'est le gardien et la défense.
On a vu encore
quelques buts qui étaient quand même assez hallucinants.
Si le gardien, il te fait les deux toiles qu'il a fait contre Brest ce week-end.
Bah nous, on aurait pu parler de Cagade.
Voilà, hein. Où les deux buts qu'il prend, ils sont pour lui. Ça peut t'aider, quoi. Mais voilà, mais je pense que le facteur X...
Après, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours compter sur une bévue du gardien adverse.
Mais le facteur X, ça va être Greenwood. Si Greenwood est dans un bon jour, que d'entrée, il commence à leur mettre la pression, à mettre le feu, ça va les obliger à jouer plus bas, à faire attention pour ne pas en prendre un ou deux.
Il nous faudra une solidarité.
Voilà, il va falloir que tu aies une vraie équipe.
Et une grande réussite.
Mais également. C'est sûr que c'est dans ce genre de rendez-vous qu'on l'attend. Mais sur Greenwood, c'est dans les grands matchs qu'il faut qu'il soit capable de faire la différence et de se montrer à la hauteur.
Que les dieux du football t'entendent.
Que si tu peux, il faut lui faire comprendre que s'il veut un gros club qui vienne le chercher... On parle quand même de 40, 45, 50 millions d'euros.
C'est un des joueurs qui a la plus grosse valeur marchande dans l'effectif de l'OM.
La plus grosse valeur marchande. Ben, il faut qu'il flambe dans des gros matchs qui se voient. Et là, c'est typiquement le match où il faut.
Je ne pense pas qu'il ait ces idées-là en tête.
Non, mais je pense que.
Elles arriveront bien assez tôt.
Je pense qu'il faut.
Mais après, c'est un jeune joueur, il n'a que 23 ans. Et après, peut-être, je ne sais pas comment il a construit son plan de carrière, mais si jamais il est amené à quitter l'OM un moment ou un autre.
Je crois que c'est le côté jamaïcain qui l'emporte. Il ne se laisse pas aller. C'est un garçon de talent. Donc, évidemment, le talent, le travail, c'est quelque chose qui doit être complémentaire.
Voilà, mais après des joueurs très talentueux, on en a connu des centaines qui ne perçaient pas parce qu'à un moment donné, il faut travailler, il faut cavaler, il faut se battre, hein, il faut. Et tu en as un en France qui actuellement, on parle beaucoup, c'est Cherki. Bah, il est devenu bon cette année parce qu'il court, parce qu'il travaille, parce que quand il perd le ballon, il se bat.
Et il n'y a pas de secret.
Ce qu'il ne faisait pas avant. Donc je pense que le joueur X, ça va être lui. D'accord. Si lui, il flambe. On peut espérer quelque chose. Sinon, ça va être dur de ne pas en prendre avec la défense qu'on a. Quoi.
Voilà. Ben, c'est sur ces belles paroles de Patrick qu'on va se quitter. Voilà, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Voilà. On reviendra sur ce match de l'OM à Monaco et on espère tous que les Olympiens ramèneront la victoire de la principauté. Voilà, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne semaine et allez l'OM à la semaine prochaine. Allez, bye. Salut. Bye à tous, au revoir.